Donc, bienvenue à la soirée de la chaire Jean Rodin, qui a pour thème retrouver du pouvoir de vivre ensemble à l'école des plus pauvres. Donc, je dis quelques mots pratiques. Donc, nous sommes une soixantaine dans la salle ici, et ils sont 44 ordinateurs connectés sur Zoom. Nous avons parmi nous Carmen, qui est photographe, qui va faire des photos de notre soirée, des photos de groupe ou des portraits. Alors les personnes qui ne voudraient vraiment pas être photographiées, ne pas être ni sur le site d'ATD Carmonde ni sur le site du Centre Sèvres, sont invitées à se mettre tout à fait au fond de la salle, voilà, pour que Carmen ait comme signe que voilà le tout fond de la salle ne veut pas être photographié, et voilà, tranquillement. Merci beaucoup. Donc, je dis quelques mots d'introduction et d'objet de notre soirée. Et puis, nous commencerons et je donnerai la parole à Jean. Il y a 2-3 ans, avant le Covid, nous avons été 2 équipes à publier des livres sur le père Joseph Wrzesinski. Donc, le livre « À l'école des plus pauvres, le projet théologique » de Joseph Wrzesinski et « Les pauvres sont nos maîtres, apprendre de ceux qui résistent à la misère, le paradoxe Wrzesinski ». Au début, nous avions pensé faire une soirée pour présenter ces livres, mais le Covid est arrivé et la soirée n'a pas eu lieu. Et depuis, celui-ci est devenu épuisé. Voilà. Donc, le projet est un peu autre. Nous avons décidé de maintenir une soirée autour du Père Joseph, qui a transformé de manière assez radicale la perception au sujet de la grande pauvreté et surtout du rôle des très pauvres pour l'avenir de l'humanité. Ils sont non pas les objets de notre bienveillance, mais les sujets et les acteurs de la possible éradication de la misère. Cette place nouvelle, reconnue aux plus pauvres dans nos sociétés, se fonde avant tout sur une relation tissée avec eux. Et tisser une telle relation suppose de prendre le temps de l'écoute pour apprendre et apprendre de ceux qui ne sont pas habilités habituellement à prendre la parole en public, à prendre la parole dans les échanges en église ou en société. Et donc c'est à cette école que nous allons nous mettre ce soir. Nous allons commencer par un temps de film sur la figure du Père Joseph, puis 2 prises de parole à 2 voix. Une première prise de parole autour de l'alliance avec les 100 voix pour donner la parole à tous, puis une 2e prise de parole à 2 voix, la fraternité ou savoir relier. Et puis vers 20h45, nous aurons un temps de conversation et d'échange, la salle et les intervenants. Je commence par présenter notre premier intervenant, Jean Tonglet. Donc Jean est volontaire permanent du mouvement ATD Carmonde et il est administrateur de la Fondation Joseph Wrzesinski, Institut de France. Jean, la parole est à toi.
Merci. Voilà. Merci Laure et bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Nous étions donc 2 équipes de 3 pour écrire ces livres et on s'est dit qu'on n'allait pas quand même vous imposer 6 conférences avec 6 personnes. Donc Laure et moi, on va être plus courts que les 4 autres et c'est avec eux que vous allez principalement rentrer dans le sujet. Et il m'a été demandé au début de cette soirée, non pas donc de faire une présentation du Père Joseph, de qui il était, de son histoire, de ses racines, de ce qu'il a construit. En fait, ça, vous pouvez le retrouver dans la première partie du livre « Les pauvres sont nos maîtres » auquel j'ai contribué, puisque c'est moi qui ai écrit cette partie. Ce qui m'a été demandé plutôt ce soir, c'est d'introduire très brièvement quelques images que nous allons regarder ensemble. Il s'agit d'images d'archives, ce sont des films en noir et blanc réalisés pendant les années 60, au début des années 60, deux films, un qui s'appelait « Rue des fleurs », et c'est une référence aux rues du camp de Noisy-le-Grand qui s'appelait rue des Jacinthes, rue des Roses, rue etc. Voilà, c'est un lieu d'horreur, mais avec les rues qui avaient été baptisées par des noms de fleurs. Et donc l'autre film s'appelait Aide à la détresse, et c'était un reportage sur les premières actions du mouvement, les premières formes de présence du mouvement dans les bidonvilles de la région parisienne. L'un de ces films était d'ailleurs quasi muet, et ce n'est que 20 ans plus tard que le père Joseph a enregistré un commentaire de ces images d'archives. Et donc le commentaire est aussi important que les images. Il requiert donc vraiment une écoute attentive. Il nous a semblé en effet que plutôt que de parler, moi, du père Joseph ce soir, il était plus utile de le donner à voir et à entendre, de donner à voir et à entendre, même brièvement, puisque ça va durer 5-6 minutes, pas plus. Mais en quelques minutes, en ces quelques 5-6 minutes, de manière incisive, le père Joseph nous dit quelques éléments essentiels de sa vie, de son vécu, des analyses qu'il en a fait, des conclusions qu'il en a tirées pour conduire l'action qu'il a engagée dès son arrivée au camp de Noisy-le-Grand en juillet 1956. On ne peut en effet, et c'est ma conviction, comprendre ce dont nous allons parler ce soir, cette pensée Wresinski, sans passer par l'homme, sans passer par l'enfant qu'il a été, sans passer par cette enfance qu'il a forgée. Il est une phrase du père Joseph que nous répétons très souvent et qui résume de manière très synthétique ce que nous voulions vous proposer au démarrage de cette soirée à travers ce film. Tout est né d'une vie partagée, jamais d'une théorie. Alors, je vous propose donc de voir, d'écouter et d'entrer à travers ces images et à travers ce commentaire, ce son, entrer dans une compréhension de l'homme qui nous réunit ce soir, afin de pouvoir ensuite entrer peut-être plus aisément dans une compréhension même balbutiante de sa pensée. Bonne vision et bonne écoute.
C'est mon évêque qui m'envoya au camp de Noisy-le-Grand dans la banlieue parisienne. J'y suis venu pour la première fois le 14 juillet 1956. Les familles que j'y rencontrais me rappelèrent la misère de ma mère. Les enfants qui m'assaillirent dès ce premier instant, c'était mes frères, c'était ma sœur, c'était moi, 40 ans plus tôt, rue Saint-Jacques à Angers. Depuis, les familles de ce camp ont inspiré tout ce que j'ai entrepris pour leur libération. Elles m'ont saisi, elles m'ont habité, elles m'ont entraîné, elles m'ont poussé à créer avec elles le mouvement. Elles se sont donné une identité en se forgeant un nom, celui de Carmonde. En ce 14 juillet 1956, j'étais entré dans le malheur. C'est ce jour-là que je me promis de révéler ces familles à la société, d'obtenir pour elles des logements décents, du travail pour les adultes, un métier pour les jeunes, et pour les enfants, des écoles où l'on apprend enfin. Ce fut aussi ce jour-là que je décidais du chemin qu'il me faudrait prendre pour que les familles aient une place reconnue et respectée dans le monde. Je devrais leur faire gravir les marches de l'UNESCO, de l'ONU, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, du Vatican et du BIT pour y faire entendre leur voix. Grâce aux familles, je suis allé jusqu'au bout de cette route. Grâce aussi à des hommes et des femmes qui sont venus nous rejoindre.
Père Joseph, vous êtes le président directeur général et fondateur de l'aide à toutes les détresses. Depuis combien de temps ce mouvement existe-t-il?
D'abord, je ne suis pas le PDG de l'aide à toutes les détresses, pas commencé, il faut dire. Le mouvement a commencé, si je veux être exact, il a commencé quand j'avais 5 ans. J'ai bien compris que tout ce que je pourrais faire, eh bien, ne servirait à rien s'il n'y avait pas un mouvement qui... qui se donnerait comme objectif fondamental la destruction, n'est-ce pas, de la misère au milieu des gens les plus exclus. Je ne peux pas non plus faire une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. Ce que, si vous voulez, ce que je sentais profondément en moi-même et que je croyais absolument nécessaire, c'était de donner aux hommes les possibilités de leur libération par le savoir, par la connaissance. Et du fait que je parlais savoir, je parlais bibliothèque, je parlais jardin d'enfants, je parlais ma propre chose.
Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui. Happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis. Travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur, travailleurs dont les mains, en ces jours, ne servent plus à rien. Millions d'hommes et de femmes et d'enfants dont les cœurs à grands coups battent encore pour lutter, dont l'esprit se révolte contre l'injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à l'inestimable dignité. Je témoigne de vous pour que les hommes, enfin, tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère la fatalité.
Poursuivons. Après avoir pris le temps de regarder quelques images d'archives, nous allons maintenant avoir un temps autour de l'alliance. L'alliance avec les sans-voix pour donner la parole à tous. Tout d'abord, ce sera Bruno Tardieu qui va nous parler. Donc Bruno est volontaire permanent du mouvement ATD Quart-Monde. Il est directeur du Centre de mémoire et de recherche Joseph Wrzesinski. Et puis ce sera Étienne Grieux, qui est jésuite, enseignant en théologie et recteur ici du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Voilà, la parole est à vous.
Ah oui. Bonsoir. L'alliance, premier thème de notre soirée, et le deuxième sera la fraternité. Je vais vous parler de l'alliance, qui était un thème très cher au Père Joseph. Nous avons choisi ça tous les six. Mais je vais vous en parler du point de vue de ceux qui n'ont pas l'expérience de la misère. Face à la misère, comme on a vu dans le film, comme on voit tous les jours, nous voulons agir. Devant les personnes vivant la misère, et avec elles, on est parfois déconcerté quand on a l'habitude d'être efficace. Déconcertés, effrayés par leur manque de moyens. Alors la tentation est grande de prendre la main, de réparer, de donner, de combler les manques, d'éduquer. Et rapidement, sans qu'on le veuille, on se retrouve dans ce que le Père Joseph qualifiait de relation de bienfaiteurs à obliger. « Ma mère n'avait que des bienfaiteurs, disait-il. Elle n'avait pas d'amis. » On le voit dans le vocabulaire même de nos associations. On parle de bénéficiaires, de personnes accueillies, de personnes accompagnées. C'est nous les bienfaiteurs, c'est nous les accueillants, c'est nous les accompagnateurs, c'est nous les éducateurs. Le Père Joseph racontait que sa mère lui disait de toujours dire oui et merci aux bienfaiteurs quand il était enfant. Tu sais, si on leur dit non un jour, après ils ne voudront plus nous aider en cas de besoin. Ce oui, ce merci obligé, fait que la parole du pauvre devient assujettie, disait-il. La parole authentique disparaît, ou bien le pauvre entre dans un certain silence. Alors, quand on n'a pas cette expérience, on se demandera « Mais pourquoi dissimule-t-il ce qu'il pense ?» Et même on finit par se demander « Mais pense-t-il » Ne faut-il pas penser à sa place ? Le silence des pauvres est gênant. Et bientôt on le comblera en proposant des mots, en finissant les phrases. Ou bien on construira des théories rassurantes pour sortir du vide de sens. En fait, ils ne souffrent pas. En fait, c'est leur liberté, leur choix de s'auto-exclure. En fait, ils n'ont pas besoin d'apprendre à lire. Dans sa famille, ils sont toujours débrouillés sans ça. Tout ce que je vous dis là, je l'ai entendu. Ou encore, les parents ne viennent pas aux réunions de parents-élèves parce que l'école ne les intéresse pas tant que ça. Ces théories, ces mythes sur la pauvreté, les pauvres les entendent quotidiennement. Ils en sont humiliés. Eux qui, au contraire, ont dit qu'ils souffrent pas, ils souffrent en continu. Eux qui veulent apprendre, eux qui ne choisissent pas l'auto-exclusion, mais rêvent d'union, rêvent d'être reconnus comme des frères. Eux qui ne se sentent pas libres, mais qui se sentent dans le vide. Humiliés par ceux qui veulent les aider, ils s'enfoncent encore dans le silence, c'est le cercle vicieux de l'exclusion sociale, c'est l'impasse. À côté de cette impasse du vouloir pour l'autre, le Père Joseph nous propose de chercher une autre place, une place pleine d'espérance, celle d'allier des plus pauvres. Allier, ça veut dire d'une certaine manière second. Second dans un combat en quelque sorte. Le combat que mènent déjà les plus pauvres. Donc il faut commencer par chercher à voir, à reconnaître ce combat. Et cela donne du pouvoir des pauvres sur nous, de se positionner comme second. Ce chemin finit par nous faire, nous aussi, sortir de l'impuissance, c'est ce que je vais essayer de montrer, sortir de l'impasse et entrer dans la réciprocité, un mot cher au Père Joseph encore. Une figure de son enfance illustre la réciprocité comme honneur. Le curé de sa paroisse était le seul qui rendait honneur à sa famille en venant demander le denier du culte à sa mère et en restant un long moment chez eux pour échanger, pour lui demander conseil. Et le petit Joseph lui donnait du papier à cigarette, si j'ai bien compris qu'il avait piqué d'ailleurs. L'honneur de pouvoir donner, le pire est de ne jamais pouvoir donner et que personne ne vous demande rien. Cette idée de l'alliance ne lui est pas venue d'une théorie, comme l'a dit Jean tout à l'heure, mais de la nécessité. La première association qu'ils ont voulu faire dans ce camp a été refusée par la préfecture. Je cite le Père Joseph dans son livre « Les pauvres sont l'Église ». À peine l'association établie, les renseignements généraux me convoquèrent pour me demander des comptes. Parmi les membres du bureau, certains étaient des repris de justice. Ils avaient fait de la prison, même perdu leur droit de vote. Qu'étais-je en train de tramer là ? Une association de malfaiteurs, de séditieux ? L'agrément nous fut refusé. Je me tournai vers un ami protestant. J'ai perdu ma ligne. Et nous fondâmes une nouvelle association. Donc il a dû chercher des alliés pour que ces alliés prêtent leur crédit aux habitants du camp, qu'ils les croient. Et ça a permis de sortir les habitants du camp de la non-existence associative et politique. Dans ces premiers alliés, on sait qu'il y a eu surtout des femmes, et parmi elles Geneviève de Gaulle. 20 ans plus tard, lors du premier rassemblement du mouvement en 77 à la Mutualité, il lance un appel à l'État, et puis à tous les citoyens. Les inclus comme les exclus. Et voilà ce qu'il dit aux citoyens inclus. À côté de l'État, c'est à tous les citoyens que je m'adresse, car ce sont eux qui, en fin de compte, déterminent les choix et les grandes orientations de toute société. Face à l'exclusion, le quart monde nous appelle à une alliance entre exclus et inclus. Entre exclus et non inclus. Une alliance qui doit transformer les données de la vie politique, la pensée de notre temps, l'esprit des institutions et des lois, la vie des églises, pour dénoncer tout ce qui met un homme en situation d'infériorité et fait qu'il soit rejeté. Il donne des exemples où de simples citoyens peuvent enrayer des logiques d'exclusion partout, dans les écoles, les entreprises, les associations, les partis politiques, les églises. Sur les églises, il dit « Quant à ceux qui croient, qu'ils fassent en sorte que grâce à leur dynamisme et à leur foi, nos églises accueillent en premier les plus démunis, que grâce à ces croyants, elles redeviennent les églises des sans-défense, des ignorants et des victimes, le lieu de leur espérance, celui du partage et du dépouillement des forts, mais aussi du refus de Dieu d'accepter l'oppression, l'injustice et la haine. » C'est là un discours politique, mais il parle des alliés aussi de manière plus intime dans son livre de méditation sur l'évangile « Heureux vous les pauvres » publié chez Cana. Il le fait à travers la figure d'un des premiers alliés moins connus, général à la retraite, Philippe Gouraud. Son fils vient de déposer les archives de son père dans notre centre de mémoire. Le père Joseph en parle ainsi. « J'ai un ami, général à la retraite. » Un jour, il rencontra le mouvement Athée des Carmons et se mit à vouloir servir les familles. Il accepta de rédiger des dossiers, alla les défendre dans les ministères. Vint le jour où il se chargea des relations avec l'Assemblée nationale. Il s'évertua à obtenir la création d'un premier groupe interparti Carmonde à la Chambre. Grâce à lui, le terme Carmonde fut prononcé pour la première fois dans l'hémicycle en 78. Il devint l'artisan silencieux, ignoré de beaucoup, d'une véritable première dans la vie démocratique européenne. Les élus se compromettaient avec les plus pauvres. Il ajoute « Philippe Gouraud n'a pas quitté son appartement de Paris. Je ne sais pas ce qui a changé dans sa vie personnelle, car il n'est pas homme à se répandre en confidence. Mais je sais, pour en avoir été souvent témoin, ce que pouvait lui coûter en relations familiales et sociales de se compromettre avec les familles du Carmonde. Expatriation sans bruit ni éclat. Beaucoup de mes amis la vivent, je le sais, acceptant les dénigrements, les haussements de sourcils, les humiliations, quand dans les réunions familiales ou des dîners officiels, ils mettent sur le tapis le Carmonde. » Il ajoute, « Ses alliés, compromis et compromettants, sont obligés de révéler leur propre entourage à lui-même. En observant leur pénible et fidèle cheminement, je me demande comment nous pouvons imaginer Jésus-Christ aimant les pauvres contre les riches. Il aime les pauvres pour les riches. Il aima Zachée pour les pauvres et les exploités. Il aima les nantis au point de les vouloir à tout prix les bénis de son Père. » Parfois, il nous disait, si on avait la patience avec les riches qu'on prétend avoir avec les pauvres, les choses changeraient. Philippe Gouraud était de ma paroisse, et le crédit qu'il a apporté au mouvement dans ma paroisse n'est pas étranger au fait que j'ai osé m'engager comme volontaire permanent. J'ai repris le secrétariat des Alliés en 88, juste après la mort du Père Joseph, et j'ai eu la chance de découvrir leur cheminement et de faire une étude avec 12 alliés de différents pays du monde. Et le livre s'appelle « Artisans de démocratie, comment passer de l'impasse à la réciprocité ». 12 récits, un journaliste, un menuisier, une laborantine et syndicaliste, un recteur d'académie, un prof d'université, une élue à Bordeaux. Ces 12 récits montrent un cheminement qui change les gens et les choses. Aucune victoire d'Athée des Carmons, comme le RMI ou la CMU ou la loi de refondation de l'école qui introduit la pédagogie de la réciprocité, n'aurait été gagnée sans ses alliés dans la place. J'en finis par 4 étapes qu'on a apprises de leur cheminement. Tout commence par « viens voir ce qu'on fait ». Tout commence par une rencontre. Rencontrer les plus pauvres qui commencent à bouger, hors relation de bienfaiteurs à obliger, lors d'une fête, d'un rassemblement, d'un 17 octobre, d'une bibliothèque de rue. C'est ce que j'ai vécu. Les stéréotypes tombent. On s'aperçoit que les gens en situation de pauvreté peuvent être drôles, intelligents, qui veulent pas la revanche, qu'on imagine quand on est nanti, mais ils veulent l'union. Deuxième étape, la personne, le visiteur, fait le lien entre cette rencontre et sa propre responsabilité, son propre pouvoir. J'ai pris conscience que j'avais du pouvoir, raconte une syndicaliste, qui du coup s'aperçoit, après avoir rencontré ATD, que son syndicat n'inclut pas les personnels de nettoyage dans son hôpital. Ou ce journaliste suisse, Jürg Meyer, qui se rend compte que les articles de son journal sont lus dans les quartiers pauvres et souvent humilient les habitants en donnant en pâture les noms de familles et les noms des quartiers. Ce qu'il n'osait pas faire dans d'autres milieux. Donc reprendre conscience de son pouvoir. La troisième étape consiste à s'organiser à l'intérieur d'une de ces sphères d'influence. Sa profession, son institution, pour se questionner les pratiques qui affectent les plus pauvres. Les responsables de ces institutions pensent d'abord que ce n'est pas leur affaire. C'est l'affaire des associations et des travailleurs sociaux. Mais les alliés connaissent de l'intérieur les logiques et les pratiques. Et ils peuvent poser des questions. Ils peuvent montrer les conséquences de ces pratiques qui créent l'exclusion. Et ils proposent des changements concrets. La syndicaliste a réussi à ce qu'une personne de personnel de nettoyage devienne déléguée syndicale. Et elle a fait évoluer tout son syndicat sur la question des plus pauvres au travail. Le journaliste a fait comprendre à son journal et à d'autres journaux en Suisse qu'il fallait créer un code éthique pour respecter l'anonymat, en particulier des plus fragiles. C'est la troisième étape. Et la dernière étape des alliés est de s'effacer pour que ces changements soient bien attribués aux personnes en situation de pauvreté, à leurs associations et à l'institution et à la profession de l'autre qui deviennent partenaires. Tout commence par une dissonance, une rencontre qui fait que les idées reçues tombent. Les très pauvres sont des humains comme moi, mais vivent dans des conditions inhumaines. Les alliés parviennent à faire vivre cette dissonance dans leur milieu, dans leurs institutions, et les forcent à faire face à leurs contradictions et à évoluer. Voilà, chacun de nous peut être l'allié des plus pauvres au quotidien dans son propre milieu. Je vous remercie.
Donc on donne maintenant la parole à Étienne Grieux.
Voilà, mais bonsoir à vous. Joseph Brzezinski, à travers ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, et avec ceux qu'il a rassemblés au sein de ce mouvement qu'est ATD Quart-Monde, fait entendre, je crois, une protestation extrêmement vigoureuse. Et la force de cette protestation se fait entendre à la fois dans la forme de ce qu'il dit, dans sa manière de parler, et sur le fond de son propos. Et cette allure de protestation en fait un message peu confortable. J'en donne un seul exemple. En 1983, Joseph Brzezinski est invité à la Sorbonne pour une conférence sur le thème « Échec à la misère ». Et dans les 10 premières phrases qu'il prononce, voilà ce qu'il dit. La Sorbonne est-elle une enceinte où peuvent être utilement prises des dispositions de lutte contre la misère? Est-elle un lieu où peut être menée cette lutte? Apparemment, non. L'université et la misère sont, en principe, deux univers qui ne peuvent pas se rencontrer. L'université est en elle-même non pas échec à la misère, mais bastion contre la misère. Au pied de ces murs, les vagues de ce fléau sont obligées de refluer. Voilà. Moi, j'imagine la tête du recteur de la Sorbonne, à ce moment-là, quand il entend ça, ou le doyen, je sais pas ce qu'il y avait comme officiel, voilà. Mais je me dis que ça a dû lui faire un certain effet quand même, hein. Bon. Et c'est vrai que c'est pas confortable d'entendre ça, et qu'on peut être tenté de détourner le regard et de fermer les oreilles. Mais je crois que nous devons l'entendre, et ici aussi, au Centre Sèvres, on doit entendre ces mêmes questions, puisqu'on est dans un lieu universitaire, par exemple. Alors, pourquoi cette tonalité? Pourquoi la vigueur d'une telle protestation? Il me semble qu'on a le choix entre deux réponses. Soit c'est que Joseph Brzezinski est très malin, et dans une volonté un peu perverse, il veut culpabiliser son auditoire et anéantir à l'avance sa capacité de résistance. Soit, c'est au contraire, parce qu'il croit son auditoire tout à fait capable et apte à assumer une responsabilité dont il n'a jusqu'à présent pas pleinement conscience. Entre ces deux hypothèses, je choisis la deuxième. La vigueur de son propos vise, je crois, à réveiller une aptitude endormie chez ses interlocuteurs. Et s'il y a parfois de la colère dans sa manière de parler, elle est à mettre en rapport avec cette fureur des personnes du quart-monde qui souvent, faute de pouvoir se faire entendre et comprendre, en sont réduits à laisser éclater leur colère. Joseph Brzezinski, c'est peut-être cette même rage mais qui a trouvé le moyen de se dire de façon ordonnée. À partir de là, on peut dire de manière plus large que lorsque les personnes du quart-monde disent leur souffrance de ne pas pouvoir trouver leur place dans la société, elles disent aussi, en creux, que nous avons cette capacité de nous organiser pour que chacun trouve sa place. Nous avons ce pouvoir de nous rapporter les uns aux autres de sorte que chacun puisse apporter sa contribution propre à la vie de tous. Cette aide mutuelle que nous pouvons nous apporter, par quoi passe-t-elle? En quoi consiste-t-elle? À entendre ce que disent les personnes du quart monde, elle tient d'abord à la capacité que nous avons de nous appeler les uns les autres, à mettre en œuvre nos capacités, à exercer une responsabilité, à tenir un rôle, à faire entendre chacun sa voix singulière. On l'entend, il me semble, et là aussi c'est dit en creux, à travers ces paroles de Philippe, qui s'exprime dans le cadre d'une émission Paroles de vie sur RCF Méditerranée.
C'est la diapo suivante.
Voilà ce que raconte Philippe. Les ascédiques m'ont dit, vous savez, à votre âge, on vous oblige pas vraiment à chercher. Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé un petit papier disant que j'étais dispensé. Dispense de recherche d'emploi. Et alors, plus personne ne vous appelle. Et puis, on rentre dans l'anonymat. Quand on devient anonyme, eh bien, plus personne ne vous connaît. Et puis après, on ne se connaît même plus soi-même. C'est ça qui est... Voilà. En quelques phrases, Philippe raconte comment le fait de n'être plus appelé, comme il dit, entraîne une perte d'identité de soi qui va très loin, puisqu'il va jusqu'à confesser « on ne se connaît même plus soi-même ». De fait, Philippe n'est plus appelé. Il reçoit simplement un message, un petit papier, comme il dit, avec une phrase, regardez bien, une phrase composée de trois mots, « dispense de recherche d'emploi ». Une phrase adressée à personne, sans verbe, sans sujet, sans aucun pronom. L'anonymat qui menace Philippe, il est déjà là dans ce message qui fait perdre au destinataire sa qualité d'acteur et pour finir jusqu'à son nom. C'est du moins ainsi que Philippe a vécu ce qui lui est arrivé. Alors on pourrait se demander à partir de là, qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en vienne à ce genre de situation? Comment expliquer que Philippe puisse subir ce genre de traitement? Il me semble que les ambiances sociales actuelles sont très marquées par le souci de calculer, d'échanger des prestations selon une rétribution correcte. On s'en rend compte, il me semble, au quotidien, par la place de ce qu'on pourrait appeler les échanges calculés, c'est-à-dire les échanges de prestations contre rétribution. Et cela peut nous amener à voir la société, finalement, comme un grand marché où des intérêts se rencontrent, se conjuguent, parfois s'affrontent. Mais là-dedans, ceux qui se rencontrent, ce sont d'abord des intérêts et secondairement des personnes. La caractéristique d'ensemble, c'est peut-être que nous allons vers des sociétés hyper efficaces en termes d'échange de prestations, mais où nous ne savons plus bien nous adresser les uns aux autres en tant qu'êtres dignes d'intérêt pour eux-mêmes, et non simplement au titre de leurs prestations. D'où peut-être une impression de vie à la fois extrêmement remplie, mais aussi une impression de vide. Car chaque acteur peut avoir l'impression de n'intéresser personne en tant qu'être singulier. Alors il faudrait tout de suite nuancer ce que je viens de dire, et signaler que dans certains lieux, par exemple dans la sphère des relations privées, la famille, les amis, alors là, oui, j'existe comme être singulier dans des relations où je suis attendu personnellement. Mais justement, quand on se cantonne à l'affaire du privé, on ne permet pas un agir qui concerne la société ou l'espace public. Ainsi, il semble que les sociétés modernes s'installent dans une sorte de scission entre des relations interpersonnelles où là, on compte les uns pour les autres, et des relations dans l'espace public, social ou économique, où là, ce qui compte, ce sont seulement les prestations que nous pouvons fournir. Alors, ce que je viens de dire, évidemment, est très schématique. Il faudrait nuancer tout cela. Mais je crois qu'on peut dire que la tendance est à l'accentuation de ce phénomène dans l'espace public. Et si c'est vrai, il faut remarquer qu'une société qui avance en ce sens est une société où le pouvoir d'agir s'amenuise. Du moins, si l'on en croit une philosophe comme Hannah Arendt, pour qui agir est indissociable d'une rencontre entre acteurs qui se risquent ensemble à l'action et qui pour cela doivent engager leur liberté les uns vis-à-vis des autres et doivent s'exposer les uns aux autres comme êtres singuliers et pas seulement comme fonction ou prestation. Parenthèse. Je crois qu'on peut peut-être comprendre à partir de là ce phénomène quand même très étonnant qu'on ne parvient pas à un agir sérieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Le type d'organisation dont nous nous sommes dotés ne nous permet presque plus d'agir ensemble. Il nous contraint à subir une loi que nous ne pouvons pas changer, celle des échanges calculés, où les choses s'enclenchent de manière presque mécanique. Alors même que nous avons conscience que cette loi-là, si on la laisse livrer à elle-même, peut nous mener vers la catastrophe. En tout cas, le chemin fait avec les personnes en grande précarité appelle à autre chose que cela. Il invite, et on pourrait presque dire, il oblige à reconnaître que nous avons cette capacité de nous adresser les uns aux autres, que cela c'est vital, que c'est primordial, et que ces adresses mutuelles ont comme effet de nous rappeler à l'existence. Les personnes en grande précarité, les premières, ont cette capacité d'appeler à l'existence. Peut-être simplement parce que leur présence nous remet face à des questions fondamentales. Elles nous interrogent, sans même le dire souvent, sur ce qui fait vivre ou disparaître aux yeux des autres, sur ce qui vaut vraiment dans la vie, sur ce qui donne à sa vie ses couleurs et sa joie. Et finalement, peut-être, il faut entendre aussi cette question. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous reconnaître de la même humanité, engagés ensemble dans une même histoire, liés par un même chemin que nous menons ensemble? Cette question, il nous faut l'entendre, même quand elle est prononcée simplement dans la fureur d'une colère qui n'a pas trouvé les mots pour se dire. Il faut l'entendre comme une convocation à retrouver la capacité de nous adresser les uns aux autres, que ce soit dans les rapports interpersonnels, dans la sphère du privé, que ce soit dans les rapports interpersonnels qui ont pour cadre des formes instituées, et que ce soit également à travers la manière dont nous faisons fonctionner les institutions. Je pense ici aux grands services publics, l'école, la santé, la justice. Et je suis persuadé qu'on peut les faire fonctionner selon une simple logique de prestation à fournir et à mesurer, ou bien, au contraire, avec le souci d'accueillir des personnes qui ont une histoire, qui ont des aspirations et qui ont des capacités à déployer. Et cela vaut aussi pour cette institution où je suis, le Centre Sèvres, bien entendu. Cette capacité à nous adresser les uns aux autres, elle peut s'exprimer aussi dans les discours publics, dans les représentations collectives que nous partageons. On touche ici au champ de la culture et au champ de l'agir politique. Car il y a une manière d'investir ces champs en imposant des vérités d'ordre technique, régulées avant tout par le critère des résultats mesurables, ou au contraire, comme un champ ouvert qui appelle chacun à trouver sa place et à se risquer lui-même aux autres. On retrouve ici ce très beau verbe qu'employait Philippe, appeler. Peut-être que la plus belle chose qu'une société puisse faire dans son mode d'organisation, c'est de cultiver ce souci et cette capacité d'appeler chacun de ses membres. Et si vous me permettez de faire ici une lecture théologique de ce que je viens d'avancer, je dirais que les croyants, à travers cette vocation à l'appel, reconnaissent les harmoniques de l'alliance biblique. Car il s'agit ici du récit dans lequel nous apprenons comment nous avons été appelés à l'existence par celui que nous confessons comme créateur et sauveur, et comment nous pouvons à notre tour, de ce fait, nous appeler mutuellement à l'existence. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre contribution sur l'Alliance. Et nous poursuivons notre soirée avec une séquence sur la fraternité. Donc nous poursuivons notre réflexion avec une deuxième séquence qui aura pour titre « La fraternité » ou « Savoir relié ». Donc ce sera d'abord Jean-Claude Caillot qui va nous parler. Jean-Claude est bibliste, il est fondateur de La Pierre d'Angle, Fraternité Quart-Monde, qui rassemble des groupes constitués de personnes en situation de précarité. Puis ce sera David Jousset. David est maître de conférences en philosophie à l'Université de Bretagne occidentale. Et il est venu de Brest pour nous parler, vous vous rendez compte? Voilà, donc la parole est à Jean-Claude puis David sur la fraternité.
Il y a un instant, sur l'écran, le noir et blanc des images inscrivait en nous les pas d'un homme allant d'abri en abri, rencontrer l'humanité dont personne ne veut. Le voilà donc, le Père Joseph, à hauteur d'horreur, recevant la fraternité d'hommes et de femmes à la dignité défaite et mordue de coups. Comme en écho, un homme du Quart-Monde disait dans une rencontre en 2019 organisée par le réseau Saint-Laurent, et cet homme disait que la fraternité c'était pouvoir, et c'est ce qui est marqué sur l'écran, pouvoir rencontrer l'autre dans sa souffrance, prendre cette souffrance pour être à sa hauteur. La voilà, la fraternité. Se placer à hauteur de la souffrance de l'autre. Descendre jusque-là, car le ciel est en bas. La voilà la fraternité dont la vocation est de franchir la nuit. Mais comment parler de fraternité devant l'absence et le vide à côté du cri sans voix? Comment, pourquoi, à quoi bon suggérer la fraternité si cette fraternité n'est que parcellaire et donc impossible? Fraternité pour tous ceux qui le peuvent, pour le plus grand nombre, pour presque tous, mais donc dans l'oubli de ceux qui sont en dehors des mondes que se sont forgés les autres, comme dit le Père Joseph. Rappelez-vous, la première occurrence biblique du mot « frère » trouve place en l'épisode inaugural d'Abel, frère de Caïn. Abel, l'insignifiant, le presque rien. Abel, le sans consistance, comme indiqué par le nom qu'il porte. Abel veut dire « buée » en hébreu. Ce meurtre fraternel, si cet oxymore a sens, serait-il pour autant la signature de la fin de la fraternité, aussitôt qu'elle apparaît? Eh bien, en fait, pas du tout. Loin de signer l'impossibilité du fraternel, ce récit mythique d'un commencement affirme en creux que la relation fraternelle est toujours à poursuivre, en même temps que toujours menacée. Elle n'est pas une simple donnée de la nature, mais une relation à construire, un projet éthique, selon l'expression de Paul Ricoeur. Pour que la fraternité soit fraternité, il convient que s'engendre en nous autre chose, autrement, que les voix qui se soumettent à l'axiome dominant qui tonitrue que tout peut se mesurer. Bien sûr, qui dit fraternité, dit vivre ensemble. Mais vivre ensemble, est-ce la fraternité? Oui, peut-être. À la condition toutefois de n'établir aucune frontière au-delà de laquelle il ne conviendrait pas d'aller. Car la fraternité, c'est tout l'inverse. C'est la passion d'aller par les chemins creux, le long des clôtures, pour rejoindre jusqu'au tout dernier, comme dit le maître de la parabole évangélique en Luc 14. Car oui, la fraternité, vivre les uns avec les autres, par et pour les autres, à partir d'eux, la fraternité exige de se laisser questionner. Recherchons-nous, les deux phrases sont du Père Joseph, recherchons-nous ceux qui ne peuvent suivre. Sommes-nous vraiment allés jusqu'au bout, jusqu'au plus exclu? Et le Père Joseph ajoute, mettant ainsi de notre côté toutes les chances d'avoir le Christ avec nous. La fraternité, pensait le Père Joseph, ne peut pas se vivre dans la vérité et l'effectivité si les plus pauvres n'en sont pas partie prenante dès le commencement. Dès le commencement, car ils ne pourront y venir chemin faisant. C'est celui-là, en effet, le plus pauvre, qui est le garant, le seul de la dimension nécessairement exhaustive de la fraternité. Si le plus pauvre n'est pas centre et moteur, pas seulement partenaire, mais guide de nos idéaux, alors nous continuerons d'habiter un monde d'idées qui ne pourra jamais répondre aux désirs et attentes des très pauvres. Tout simplement parce que notre monde et notre Église n'ont pas été construits à partir de son expérience de vie le plus pauvre, de sa pensée, de sa foi. Et nous continuerons de fuir la présence des très pauvres en invoquant l'argument apparemment décisif « il y a bien d'autres pauvretés ». Et c'est pourquoi le Père Joseph distingue de manière essentielle et résolue deux pauvretés, l'une anthropologique, l'autre sociale. Je cite « tout manque, toute pauvreté ». Manque, pauvreté, une pauvreté anthropologique, vitale. Tout manque, toute souffrance n'est pas misère. La misère, elle est une terre où la fécondation n'est presque plus possible. Fin de citation. La misère, c'est le lieu d'une humanité sans visage, aux paroles suffoquées. Et je veux préciser encore ceci. Le plus pauvre n'est pas ici ou là. Il ne peut être défini ni désigné, car le plus pauvre, c'est celui que nous ne connaissons pas encore. Tout à la fois, celui que nous attendons et cherchons, comme la brebis dans les collines de Judée. La fraternité est impossible si l'on n'opère pas cette distinction. En la refusant, pour jouir tranquillement de l'affirmation « nous sommes tous pauvres », nous courons le risque de dissimuler le scandale de la misère, de le refouler, voire même de le légitimer. La fraternité n'est pas un fait, mais une espérance, écrit Catherine Chalier. Elle est en devenir. Et si l'on veut qu'elle n'oublie personne, la fraternité, c'est un parcours exigeant que nous sommes appelés à emprunter. Laisser naître en nous une transformation qui est un changement de référence. Le plus pauvre reconnu comme notre source de pensée. Si tel était le cas, nos groupes humains, nos manières d'être et de penser en seraient probablement radicalement modifiées. Et la fraternité deviendrait enfin possible, parce que le plus pauvre en serait la mesure. L'acquiescement à cette exigence spirituelle constitue une forme de révolution. En effet, construire la fraternité à partir des plus pauvres et avec eux, les deux prépositions articulées l'une avec l'autre, ne nous conduit pas à faire un pas de plus pour améliorer telle ou telle dimension de l'existence commune, mais autre chose, autrement, récuser les points de repère érigés en douane, et à l'inverse, être ouvert à l'aventure de la rencontre avec le plus pauvre, hors de nos sanctuaires. Et vous donnez au mot sanctuaire le sens que vous voulez. Le 17 septembre dernier, dans une rencontre de la Pierre d'Angle, alors que les participants étaient invités à donner des mots qui pourraient répondre à la question simple « Qui est Dieu pour nous ?», l'animateur propose quant à lui le mot « joie ». Et il commente son choix en soulignant qu'on a la chance d'avoir un Dieu joyeux. Dans l'Évangile, souligne-t-il, Dieu, il fait la fête avec n'importe qui. Et aussitôt, Michel rétorque, je cite, « Oui, mais c'est qu'il est invité aussi. Nous, on n'est pas invité. On n'est pas invité. Parce qu'il n'y a pas ou plus de relation. Parce que la fraternité s'est effondrée. Si on écoute Michel dans la profondeur de ce qu'il dit, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il nous ramène à l'essentiel. Laisser s'ouvrir nos communautés d'appartenance pour qu'elles se construisent à l'aune du plus petit et du plus pauvre. Et donc, que ces communautés décident vraiment de se mettre à l'école des plus pauvres, de les reconnaître comme des maîtres à penser la société comme l'Église. La fraternité, ce serait d'apprendre de tout le monde, disait une jeune femme dans le groupe que je citais en commençant. Et j'ajouterais, non pas apprendre quelque chose, mais apprendre de l'autre, davantage même apprendre l'autre, entrer, et je cite là le Père Joseph, entrer dans le contenu de la foi, du courage, du désespoir de l'autre. Tel est pour le Père Joseph en effet, connaître son frère, autrement dit, vivre dans et par la fraternité. L'expérience de vie des très pauvres, non seulement a sens, mais elle est un appel. Un appel parce qu'il nous requiert pour les écouter. Les écouter parce qu'ils sont les détenteurs d'une connaissance unique, c'est-à-dire que nous avons à nous repenser, à réévaluer nos idéaux à partir de ceux qui sont exclus. C'est dire également qu'ils sont de vrais contributeurs pour la construction et le progrès de nos communautés humaines. Leur intelligence du monde, des humains et de Dieu même nous manque, parce que personne d'autre ne la détient, cette intelligence, et personne ne peut penser ni parler à leur place. En conclusion, la présence effective des plus pauvres, leur contribution et leur engagement de pensée et d'action est la pierre de touche, la pierre d'angle de la fraternité. ce qui nous permet d'évaluer de manière juste où en est sa construction jamais achevée. Est-elle réellement pensée, cette fraternité, et mise en œuvre avec tous, sans aucune exception? Est-elle le lieu de naissance où nous puissions faire chemin d'humanité, les uns par les autres, avec et à partir du plus pauvre, comme la jeune pousse écartant la pierre? Enfin, est-elle la fraternité? Est-elle témoin de la source première qui nous donne d'être les uns pour les autres, non pas meurtre, mais vie, éclat de joie?
Merci beaucoup Jean-Claude, et donc nous donnons la parole maintenant à David.
Merci Laure, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis très heureux de me présenter parmi vous comme simple allié, à l'image de ce que Bruno nous a présenté tout à l'heure, et aussi chercheur en philosophie. Je vais essayer de parler assez fort pour qu'on m'entende, y compris au-delà de cette salle. Le projet que nous avions au départ, comme c'était évoqué, était d'essayer d'entendre ce que la pensée du Père Joseph avait de percutant, de provocateur, pour notre réflexion actuelle sur la fraternité en particulier, comment elle provoque à une autre façon de vivre ensemble, une autre façon de construire la société et de construire l'Église. Ce soir, je proposerai simplement d'essayer de faire le lien entre une petite expérience personnelle de compagnonnage avec des personnes ayant l'expérience de la grande pauvreté, et puis la recherche contemporaine la plus aiguë parfois sur cette notion de fraternité, de voir comment il y a un dialogue possible au-delà de tout ce qui peut séparer. Voilà, les chercheurs en philosophie, les universitaires, de la Sorbonne ou d'ailleurs, et puis ceux qui sont peut-être à la porte de l'université à Mendier. Le premier point, donc, c'est une démarche de fraternité telle que je l'ai vécue à travers des rencontres en quelques étapes, qui rejoint un petit peu, encore une fois, ce que Bruno a présenté comme parcours. Première étape, c'est d'abord se reconnaître comme humain. La première rencontre, on a du mal parfois à croiser les regards et puis on se découvre qu'on est humain, les uns les autres. La deuxième, c'est refaire la rencontre, se fréquenter, faire ensemble des choses, des activités. Les corps nous rapprochent parfois même sans les mots. La troisième, c'est découvrir qu'on peut apprendre les uns les autres. Par exemple, souvent en écoutant les gens parler, je me disais, mais c'est incroyable parce qu'ils se comprennent à mi-mot et moi je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et inversement, j'ai compris que moi aussi, parfois je pouvais avoir des évidences que je ne comprenais pas. Et donc j'ai besoin de l'autre pour pouvoir un minimum rencontrer ce qu'il vit. L'autre étape, c'est encore se laisser conduire par le très pauvre sur des terrains inconnus. Me voici dans une ville que je ne connais pas, sous la pluie. On va chercher à rencontrer d'anciens voisins des parents d'une dame il y a 30 ans. On n'a même pas l'adresse, on a juste le nom du café. Finalement, on va les trouver. C'est un miracle, ça se passe à Lourdes. La rencontre va durer 3 minutes. Mais pour la personne, c'était très important. Notre étape, c'est déconstruire ce qu'on croyait sur la fraternité. Par exemple, comment est-ce possible qu'une personne qui a tant de mal à vivre peut héberger si longtemps ce migrant qu'elle ne connaît même pas, qu'elle a rencontré presque par hasard? Comment ça peut venir, cet élan? Une autre étape, c'est traverser les tempêtes en restant fraternel. Cette personne que j'apprécie, que j'aime, tout d'un coup j'apprends qu'elle passe par la case prison pour violence conjugale. Ça veut dire quoi être fraternel avec elle après? Enfin, une dernière étape, c'est accepter de faire mûrir la vie commune, la vie partagée qu'on a évoquée à l'instant Jean-Claude, à l'épreuve du temps, à l'épreuve des phases de la vie. Peu à peu, comme le disait une personne, sentir qu'on est comme une famille. Bon, voilà, quelques étapes d'un cheminement. Maintenant, je voudrais entendre ce que dit le Père Joseph et aussi en même temps le questionner en m'appuyant sur un texte qui pourra être diffusé, qui est très court, qui s'appelle « Solidaire ou frère », qui est une communication de juin 85 que m'a transmis Jean-Claude, dans lequel il y a quelques expressions que je vais commenter. La première expression, c'est le Père Joseph compare la fraternité au fait d'être à une même table. Il dit « chacun a le droit d'être à la même table ». Et je m'interroge, est-ce qu'on ne peut pas dissocier la fraternité du principe d'égalité ? Voilà. Faut-il être égaux pour être fraternel ? Ou est-ce que dans la fraternité, ne pas supporter une part de personnes qui viennent bousculer l'égalité, hein, ce qu'on appelle en philosophie la part des sans-parts, qui vient introduire un dissensus, peut-être une disharmonie. Quelque part, la table n'est jamais assez grande pour accueillir tout le monde. Peut-être qu'il faut sortir de la table. Tous frères ou tous égaux, c'est le premier point. Deuxième point, je m'interroge aussi, j'ai résumé ça en disant « des frères sans père », point interrogation. Le Père Joseph parle souvent de la même origine. Il dit « on est liés par la vie elle-même », puis il dit plus loin « on est liés les uns aux autres par Dieu lui-même ». Je m'interroge dans quelle mesure ces deux idées sont liées. Dans quelle mesure on peut penser une fraternité sans filiation. Vous voyez, une fraternité sans avoir un même père, une même origine. Et comment on peut avoir une fraternité politique construite par des humains qui soient tout aussi inclusives et inconditionnelles. La troisième question, c'est est-ce que être fraternel, c'est vivre en harmonie ? Le Père Joseph oppose plusieurs fois la solidarité et la fraternité. Et la solidarité, c'est lorsqu'on est uni dans une revendication contre un tiers. Je pense en particulier à des combats syndicaux ou politiques. Alors que la fraternité suppose une compassion, une communion. Mais du coup, je m'interroge, comment la fraternité peut supporter le différent, le conflit, voire la violence? Est-ce qu'on peut être fraternel avec son ennemi politique, avec son opposant, avec son adversaire social, voire avec son abuseur? Enfin, dernière question, fraternité des frères, mais où sont les sœurs? Le Père Joseph prend souvent pour modèle une famille avec, il me semble, des rôles sexués assez classiques. Et on peut s'interroger, voilà, est-ce que le terme de fraternité ne reproduit pas, quelque part, une focalisation sur une communauté d'hommes? Dans ce cas-là, y a-t-il encore une dimension féminine? Faut-il dépasser cela vers, j'ose, une syne adelphité? Adelphoi en grec, c'est les humains, hommes et femmes, qui seraient ensemble, voire une transidentité. En tout cas, comment entendre l'anthropologie du Père Joseph? Est-ce qu'elle est datée ou est-ce qu'elle a encore un questionnement qui vient interroger nos propres réflexions actuelles? D'où le troisième point, comment le Père Joseph donne à repenser la fraternité encore à venir? Et j'ai beaucoup écrit cette pensée, cette partie, en entendant ce que disait Jean-Claude et en voyant les échos philosophiques. Je vais en prendre quelques-uns. La première, c'est, il me semble que ce qu'on appelle fraternité ce soir rejoint beaucoup la réflexion philosophique sur ce qu'on entend par la communauté. Depuis les années 90, au niveau international, toute une réflexion sur la communauté qui est ouverte par et sur l'absent. Je pense à Maurice Blanchot. Ou encore une communauté qui n'est pas un sujet, mais une dynamique de ne pas exclure. Je pense à Roberto Esposito. Ou enfin une communauté qui ne donne pas de limite, de terme de la route vers laquelle elle tend, mais qui en même temps considère qu'il y a bien un certain partage du sens et de la responsabilité d'être. Et là, je pense à Jean-Luc Nancy. Je voudrais juste essayer de donner un peu plus de précision à ce partage du sens, en me disant peut-être, comme on l'a déjà dit ce soir, ce que la rencontre des plus pauvres, ce vers quoi elle nous fait signe, ça pourrait être cette interhumanisation, c'est-à-dire j'ai besoin, pour devenir humain, de la personne qui connaît les conditions les plus inhumaines. Elle ou lui seul connaissent ce chemin vers la plus grande humanité possible. Ce serait vraiment cette part de savoir irremplaçable. Enfin, pour terminer, quel cheminement pratique, une fois qu'on a fait cette rencontre, une fois qu'on a entendu ces questionnements. Quels sont les déplacements qui permettent de se découvrir frère? Et comment ça peut se traduire sur un plan politique, éthique, social? Et là, je commenterai juste l'expression du titre de ce soir, le pouvoir de vivre ensemble. Le pouvoir de vivre ensemble, ce que j'entends à travers l'expérience des plus pauvres, c'est que il ne peut pas avoir lieu sans des actes de réparation, de reconstruction, de retissage des tissus sociaux, de pardon. Le pouvoir de vivre, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que ce pouvoir de vivre se découvre dans l'être ensemble. On en meurt de ne vivre que pour soi. Et pourtant, qu'est-ce que c'est difficile d'accepter qu'on doit vivre les uns par les autres. Et puis enfin, je pense que la fraternité restera toujours un point d'interrogation dans nos politiques. Parce qu'elle va bien au-delà comme exigence de tous nos principes, que ce soit l'émancipation socialiste, l'autonomisation libérale, l'égalité républicaine, la question « qu'as-tu fait de ton frère ?» reste toujours une question limite. Elle appelle à un davantage que le respect, la tolérance ou la reconnaissance. Elle appelle à une transformation. Une transformation qui est indissociablement personnelle, interpersonnelle et institutionnelle. Et ça a déjà été dit ce soir, je crois. Pour terminer, quelques pistes pratiques qui me viennent de l'écoute d'un groupe de Cézins en Finistère, place les paroles des pauvres qui ont médité deux évangiles, le bon samaritain et la multiplication des pains. Et elle donnait quelques pistes précises. Il disait la fraternité, c'est être attentif aux isolés. Je dirais, c'est apprendre à voir derrière les piliers ceux qui s'y trouvent. Deuxièmement, la fraternité, c'est oser le geste de paix, pas seulement au cours d'une célébration, mais aussi dans la rue. C'est-à-dire ce tout petit geste qui dit à quelqu'un qu'on l'a vu, qu'elle compte comme une personne, qu'on peut faire un bout de rencontre personnelle, même si c'est difficile. Troisième geste, c'est partager en veillant à n'oublier personne. Ils ont posé une très bonne question. Pourquoi est-ce que dans l'évangile de multiplication des pains, il y a ces 12 paniers? Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? C'est important, la nourriture, ça ne se gaspille pas. Donc pour elle, c'était une évidence. Ces 12 paniers, c'est pour distribuer au village alentour. Et donc n'oubliez personne, c'est n'oubliez pas ceux qui sont hors scène, ceux qui sont hors champ du regard. Et puis c'est aussi impliquer d'autres. Le Christ demande à ses disciples de distribuer ce pain. Et quelque part, les plus pauvres nous disent, ben, nous aussi on est prêts. On est prêts à accueillir à l'entrée nos églises, mais pas tout seul, avec d'autres, pour qu'on ne se retrouve pas qu'entre nous. Je cite leurs paroles. Donc la fraternité engage à faire alliance. Et puis enfin, la fraternité s'inscrit dans une transmission. Il y a toute une tradition de rassembleurs, de porteurs, d'une flamme, comme ils disent. Comment entretons-nous cette flamme qui nous éclaire et qui donne tant d'amour? Et s'il me reste encore une minute, j'oserais dire que, à travers ces mots tout simples, il rejoint une intuition fondamentale du Père Joseph, qu'il appelait même un projet de civilisation, qui est de construire une politique révolutionnaire de l'amour. Pas seulement être hospitalier à l'autre, pas seulement être solidaire avec les différents, mais encore une fois reconnaître qu'on a besoin de donner le meilleur de soi et que c'est ce meilleur partagé qui doit faire notre lien. Dans toutes nos institutions, dans tous nos principes juridiques, dans la façon d'organiser le partage du savoir à l'université, dans toutes nos actions politiques, comment faire pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même en sachant que ce meilleur ne sera donné que dans un partage qui part de celui, à première vue, qui est le plus démuni, qui doit être au centre. Pour terminer, j'avais pensé donner à cette communication l'idée d'une fraternité de la magnificence. La magnificence, c'est ce mot très beau, très poétique, que, à mon avis, le Père Joseph invente, qui rassemble à la fois la munificence, la générosité des plus pauvres, qui rassemble aussi la grandeur d'âme. Et la grandeur d'âme, c'est tous ces petits gestes d'amour qu'on ne peut voir que lorsqu'on se met à genoux. Et cette fraternité, finalement, elle se joue pas seulement à la table du banquet, mais elle se joue aussi sous la table, dans les miettes du banquet, là où la syrophénicienne invite Jésus à descendre, pour y trouver peut-être des chiens qui mangent les miettes, des mendiants comme Lazare, et puis des étrangers, des gens qui n'ont pas été invités, et qui nous montrent que la table du banquet, la table de la fraternité, est toujours plus loin, plus ouverte qu'on ne pense.
Un très grand merci à David et Jean-Claude à l'instant, et puis Étienne et Bruno. On vous propose maintenant une petite minute de silence, d'intériorisation, et puis 2 minutes avec le voisin pour converser. Quelles questions, quelles réflexions vous voudriez partager avec l'Assemblée et puis avec nos 4 intervenants? Étienne et Bruno vont revenir ici. Je vais aller chercher un micro et puis on va circuler dans la salle. Et je donnerai quelques annonces sur la chaire Rodin tout à fait à la fin. Voilà, donc une petite minute de silence et puis 2 minutes d'échange avec votre voisin et puis un échange en grand groupe. Est-ce que vous entendez avec ce micro? Et est-ce que ceux qui sont dans le Zoom, là, vous nous entendez quand je parle avec ce micro? Est-ce que ceux qui sont dans Zoom, vous entendez quand je parle avec ce micro-là? Donc, la parole est à l'Assemblée. Et donc, Grégoire a le micro et on va prendre 2, 3, 4 prises de parole, puis on donnera la parole aux intervenants et ainsi de suite.
Oui, bonjour, Laurence Darcot. Moi, j'aimerais qu'on m'explique davantage se placer à hauteur de la souffrance de l'autre. Voilà, parce que j'ai souvenir d'une femme avec qui j'étais dans un combat et j'avais mal dormi, et le lendemain quand je lui dis, elle me dit non, c'est ma souffrance, c'est pas la tienne, moi j'ai besoin que tu restes forte. Voilà, donc j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est se placer à hauteur de la souffrance de l'autre.
Bon, bonjour, je suis Richard. Richard, c'est assez fort. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous appelez fraternité? Parce que mon oncle, quand il est arrivé à Noisy-le-Grand, qui avait 250 familles à s'occuper, est-ce qu'il a été fraternel tout de suite avec ces personnes-là ou il a fallu un laps de temps? Est-ce que ça peut pas se faire tout de suite? Il ne pouvait pas être fraternel avec tout le monde au début.
Moi, j'ai une question sur l'amitié. Pardon, j'ai une question sur l'amitié qui peut se construire justement entre les plus pauvres et puis ceux qui sont engagés justement dans des associations ou autres. Est-ce que cette amitié se fait toujours sur le terrain du plus pauvre ou est-ce que c'est une amitié qui devient réciproque à un moment donné, sur le terrain de chacun?
Donc, on va donner la parole à nos intervenants. Et on va laisser un petit instant. Vous appuyez sur
faire. Donc évidemment, à hauteur d'horreur ou à hauteur de la souffrance, comme disait la personne, il s'agit bien de à hauteur de et pas à la place de. En fait, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. On n'est jamais à la place de quelqu'un. On est chacun soi-même, totalement autonome, mais voilà, on n'est jamais à la place de quelqu'un. Mais à hauteur de, c'est-à-dire l'image de quelqu'un qui est dans la rue et on s'accroupit. On est à hauteur de. Le film de ce point de vue-là me paraît assez fort, où on voit le père Joseph, j'ai pris l'expression à hauteur d'horreur, mais c'est-à-dire comme si il se bagarre avec la misère. D'ailleurs, cette espèce de geste, il y a une forme de violence rentrée dans son comportement qui
Voilà, bon. Mais en tout cas, le hauteur d'horreur ou à hauteur de souffrance, c'est pas prendre la place d'eux, évidemment. Non, c'est alors, je disais descendre jusque-là, faisant allusion à Philippiens 2, donc cette kénose, cet abaissement, cet évidement, au fond, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que la hauteur, être à hauteur de la souffrance, c'est pas prendre la souffrance de l'autre sur soi, ou bien faire comme si on était souffrant de la même manière, c'est intérieurement s'évider suffisamment pour entendre, parce que la souffrance, encore faut-il l'entendre. Et puis la deuxième chose, je profite puisque j'ai la parole juste sur le ce que disait Richard, c'est moi, il me semble que la fraternité, on peut pas être fraternel avec quelqu'un du jour au lendemain. Je pense que le père Joseph n'était pas différent, il était de la même eau que nous. Il y a quelque chose qui me frappe dans par deux fois ou même trois fois dans son œuvre publiée, c'est qu'il dit qu'il avait tout à réapprendre en arrivant à Noisy. Et donc il y a eu certainement chez lui, pour des raisons qu'il faudrait analyser, c'est pas le lieu ici, mais il y a eu chez lui une nécessité de se remettre à hauteur d'horreur, justement. Et au fond, de descendre jusque-là. Parce qu'avant, il avait l'expérience et une commensalité avec des gens très pauvres, mais des individus. Et là, il se trouve face à un peuple. Et le choc de se trouver face à un collectif et donc de devoir répondre de manière collective, de manière politique, fait que la fraternité, il doit l'apprendre. Il doit l'apprendre et l'intérioriser. Voilà, c'est ce qu'il me semble.
Est-ce que j'ose vous demander de... Vous avez parlé d'amitié. Est-ce que l'amitié est sur le terrain des très pauvres ou sur le... Vous avez posé la question de l'amitié? C'est ça, voilà. Et vous avez dit, est-ce que c'est sur le terrain des très pauvres ou sur le terrain de chacun? Vous pouvez dire un tout petit peu plus, parce que ça me donne une idée, mais j'ai peur de tomber à côté.
Alors... Je vais vous donner un exemple. En fait, je travaillais pour l'association Emmaüs. Pardon, je travaillais pour l'association Emmaüs pour les sans-abri en centre d'hébergement d'urgence. Et il y avait notamment des permanents, en fait, qui étaient à la base sans-abri et qui étaient devenus permanents. Et à force de les voir, on s'était créé une amitié. Mais on m'avait recommandé de jamais les inviter chez moi parce que l'écart était trop grand. Et donc on pouvait se retrouver au sein de l'association, mais il y avait quelque part, voilà, c'était, j'avais l'impression que c'était une amitié limitée en fait. Et donc voilà, c'était ça ma question.
Bon, maintenant que je me suis lancé, je suis obligé d'essayer de dire quelque chose. D'abord, c'est vrai que. On peut, par un geste qui se veut généreux, créer beaucoup de gêne. Donc cette sagesse que vous ont dit les permanents d'Emmaüs a un certain sens. Mais ce que j'ai voulu raconter tout à l'heure, c'est que on peut continuer d'être très proche des gens même si on n'est pas sur leur terrain. Et les gens très pauvres ont une immense estime pour ceux qui les défendent, même quand ils sont pas là. Puisque Laurence a parlé, je vais prendre un exemple, mais Laurence, elle est juge pour enfants, et ça lui est arrivé de prendre des positions en tant que juge pour enfants au nom de ceux et celles qu'elle a connus qui vivent la misère. Et quand les gens qui vivent la misère découvrent que vous parlez d'eux en bien, que vous les défendez même quand ils sont pas là, même quand vous n'êtes pas chez eux. Et je pense que là, ça crée un lien extrêmement fort. Et donc, ça répond pas à la question pratique que vous dites. Mais, encore un autre exemple. Enfin, voilà, quand on a écrit ces récits d'alliés d'Athédée Carmonde, qui n'étaient donc pas très pauvres, qui avaient des liens avec des gens très pauvres, mais qui essayaient de faire bouger leur milieu au nom des gens très pauvres, les gens en situation de pauvreté qui ont lu ce livre ont été extrêmement touchés, de comprendre que, en fait, c'était pas juste au moment où les gens venaient leur rendre visite qu'ils étaient habités, c'était pendant toute leur vie. Le père Joseph disait ça sur sa mère. Il disait, tu vois, quand ils viennent chez nous, nous apporter des choses, ils nous disent bonjour, ils sont gentils avec nous. Mais si on les croise au centre-ville, là, ils nous disent plus bonjour. Donc, l'interpellation, c'est la responsabilité au quotidien. Et je vous assure que les gens très pauvres, s'ils savent ça, ils sentent que c'est un lien. Bien sûr, il y a la proximité des corps, mais il y a la proximité de la durée. Quand on reste fidèle à des amitiés, comme vous dites, pendant des années, il y a quelque chose qui se crée entre les personnes, entre les familles. Et je pense, c'est à côté de votre question, hein, mais je pense qu'il y a moyen d'être... Laurence veut répondre à ma place, elle a raison, vas-y.
Moi, j'avais lu au contraire dans la part de Joseph Rezinski qu'il fallait au contraire inviter chez nous. Donc, c'est ce qu'on a fait, souvent. Et en fait, on a demandé aux personnes ce que ça leur faisait. Parfois, elles avaient habité la rue et puis elles se retrouvaient chez nous. Et en fait, ce qu'elles nous ont répondu, c'est que finalement, si tu m'invites chez toi, c'est que je suis pas une moins que rien. Et jamais, jamais, on a senti la moindre jalousie, la moindre gêne, aucune gêne, aucun ressentiment, jamais, jamais. Mais simplement, si tu m'invites chez toi, ça veut dire que je suis quelqu'un à tes yeux et que je suis pas un moins que rien. Et c'est vraiment, je dirais une dizaine de personnes, voilà.
Juste, il a prononcé le mot « je suis honoré de venir chez toi ». Je suis honoré, donc, et effectivement pas de... Alors que le rapport entre chez lui et chez moi, c'est de 1 à 1000, quoi. Voilà.
Mais je pense que c'est d'autant plus vrai que votre engagement n'est pas ponctuel. Les gens le sentent aussi, ça. Vous n'allez pas les lâcher, vous n'allez pas les lâcher dans leur combat. Voilà. Mais bon, merci de cette réponse beaucoup plus simple et claire que la mienne.
On prend la parole de Jean-Marie, Marie-Agnès, puis quelqu'un par là-bas.
Oui, je vais me permettre de faire un contre-témoignage, mais pas du tout en opposition. Moi, je suis engagé dans une fraternité, la fraternité Saint-Laurent dans le Var, avec des personnes en grande précarité. Et c'est une question qui nous taraude en permanence, les liens qu'on a les uns avec les autres. Parce que dans cette fraternité, il y a des gens en grande précarité, puis il y a des gens qui ne le sont pas du tout, et voire même des gens qui ont un très beau statut. Je voulais donner cette anecdote qui honore une femme, Jeannette, de cette fraternité qui est décédée... Il y a l'année dernière, qui est une vraie femme du quart monde, qui a eu 7 enfants qu'elle a élevés comme elle a pu, des enfants qui ont même abusé un peu d'elle, enfin même pas mal. Et puis elle a trouvé une amitié dans la fraternité Saint-Laurent, dans un groupe qui s'appelle Massabiel, partage de la parole de Dieu avec les passages à Lourdes, etc. Et puis un jour, dans Massabiel, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue, elle dit « Mais moi, je peux inviter personne chez moi, c'est trop pauvre. » Et ça nous était rapporté, donc parce que voilà, on se connaît bien. Puis elle, Jeannette, elle fête son anniversaire chaque fois qu'on va à Lourdes, parce qu'elle est née le 8 août, pas loin de la Saint-Laurent. Donc chaque fois qu'on va à Lourdes, en règle générale, on lui fête son anniversaire. Et on a eu une idée de cadeau. On a proposé à tous ceux qui le veulent de se faire inviter chez Jeannette. Et Jeannette, elle s'est retrouvée pendant 15 jours, tous les 15 jours, il y avait quelqu'un qui venait manger chez elle. C'était la première fois de sa vie qu'elle accueillait des gens chez elle. Et moi, j'y suis allé avec mon épouse, mais c'était d'une émotion incroyable, quoi. Et je pense que il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas dignes d'inviter chez soi, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui est fondamental et qui doit se jouer. C'est oui, je peux venir chez toi, et des fois chez nous, ça donne encore moins envie d'inviter chez soi. Le problème, il peut être là. C'est-à-dire que c'est, voilà, il y a quand même, moi, ma mère était en HLM. Je me souviens que j'étais fait un ami, au lycée. Je voulais présenter cet ami et pour le coup, faire une rencontre avec sa mère. Sa mère était divorcée. Et moi, ma mère habitait en HLM et donc, on invite cette femme avec son fils. Tout se passe très bien. Moi, j'étais trop content et cette femme nous invite chez elle. Et elle habitait dans le 7e arrondissement, un lieu incroyable. Ma mère, elle a été une honte après. Il n'y a jamais eu plus de lien après avec cette femme. Enfin, j'ai vu ma mère se décomposer quand elle était chez elle et de réaliser qu'elle avait invité dans son HLM cette femme, ça l'avait décomposée. Alors que ma mère est une battante, hein. Mais je pense qu'il faut des fois commencer par aller chez les personnes et petit à petit, quoi. Il faut que la confiance gagne. Voilà.
Super.
Comme quoi, il y a tout et son contraire, hein. C'est pas du tout une contradiction, mais il faut du temps. Voilà.
Que entre deux peuples qui peuvent s'entendre, hein, qui peuvent s'entendre, et entre eux, peut transformer une profonde amitié de paix éternellement en se faisant respecter, tel que ce soit ses coutumes, et les nôtres aussi, hein. Comme une phrase que certains anciens répètent, là où règne la misère, là où les femmes sont condamnées, hein, règne la misère, les droits de l'homme sont violés, hein, parce que ça c'est vrai. Et la dignité de l'homme et le respect est un devoir sacré. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est plus qu'une d'amitié profonde. Parce qu'une amitié profonde, c'est une fraternité qui puisse partager. Parce que chaque pays faut s'y adopter, quelle que ce soit sa croyance, tout en faisant se respecter. Et ça peut entraîner une profonde amitié et une grande paix de joie. Voilà, puis ce titre-là, je rappelle pour les anciens, ils connaissent aussi bien les gens, mais ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire est un devoir sacré. Parce que le devoir est bafoué ici.
Bonsoir à tout le monde. Si je suis parmi vous ce soir, c'est pour vous connaître et pour me faire connaître. Ah, je reprends. Si je suis parmi vous aujourd'hui et si je suis parmi vous ce soir, c'est pour vous connaître et pour me faire connaître. Et surtout pour connaître qui était vraiment Joseph Wyszynski. Si je vous dis, je n'ai pas connu la pauvreté, ni la misère, ni la précarité. Cela fait 25 ans que j'ai appris à connaître que cette situation existe.
Alors, Monsieur François Assise. Un François Assise, notre grand François. Quand il a rencontré l'autre, le lépreux, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a donné la force? Parce que à cette époque-là, nous savons, il s'est exclu de tout. Là, il était vraiment pauvre des pauvres. Il a eu la force qui venait du haut de Dieu d'embrasser cette pauvre-là, qui était pleine de puits et qui était vraiment abandonnée. Là, à ce moment-là, il a dit ceci. Après 7 jours-là, cet moment-là, c'était fini. Il n'avait plus peur. Plus peur d'embrasser, plus peur de toutes sortes de barrières. Qui lui est donné? C'est la force du Seigneur qui donne toujours. Si on regarde toutes les grandes figures de la charité qui est passée de toutes les chrétiennes, de toutes les nationalités, on voit bien que c'est toujours le Seigneur qui transforme la personne, qui donne la force par son amour, par son présence en lui. Comme le grand apôtre dit, moi je dois diminuer et le Christ va croître en moi. Évidemment, ça donne tout les résultats. Maintenant, je vais une fois dire, j'ai lu pape 11, oui. À cette époque-là, les papes, ils ont déjà prédit que l'adversaire du Christ travaille déjà dans le monde. Et aujourd'hui, je ne vais pas allonger parce que je vais donner la parole aux autres, on voit que l'adversaire a bien travaillé. Invisible, invisible. L'adversaire est déjà bien travaillé. Et là, c'est reconnu par les papes, par leur encyclique. Ils ont reconnu contre les mariages, contre toutes sortes d'insultes. Vous savez très bien, si les mariages et attaquer la société aussi. Et ça, on voit maintenant avec les enfants et toutes leurs sortes des signatures faites. Mais c'était déjà reconnu à cette époque-là. Oui, je donne tout de suite. La Renaissance, c'est déjà là le adversaire qui est contre Dieu et qui nous éloigne de Dieu. Ils ne veulent pas la communication d'amour. Ah ben non, ils veulent la séparation, diviseur, tout ça, c'est lui. Excusez-moi,
merci, je suis beaucoup. Un petit peu long.
Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Mais merci beaucoup. Aussi. Est-ce que l'un de nos intervenants veut donner écho à ces 3-4 prises de parole? Vas-y, David.
Lorsque François embrasse le lépreux, d'après une légende franciscaine, le lépreux disparaît. Lorsque le Père Joseph embrasse le peuple Quart-Monde, il se révèle. Moi, je vois une différence. Je pense que cette différence, elle dit quelque chose. Une démarche qui n'est pas à opposer, mais qui doit nous aider à nous décentrer. J'entends beaucoup dans nos interventions, et moi le premier, je pense, depuis mon expérience de non-pauvre. Et ce qui est très intéressant dans ce qui a été évoqué justement par Étienne ce soir, c'est comment, dans l'Alliance, chacun étant respecté, comme c'était beaucoup insisté, respect sacré, chacun étant respecté, une rencontre est possible et une fécondation est possible des existences. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un nous qui peut naître. Et je crois que c'est le grand défi que nous appelle les plus pauvres, c'est que de reconstruire du nous qui ne soit pas exclusif, qui ne soit pas en écartant certains parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'arrivent pas à penser aussi vite, ils ne sont pas assez efficaces, etc. Voilà, donc c'est cet écho que j'ai entendu dans deux paroles ce soir.
Simplement, à travers ce que disait Michel en citant les phrases qui sont écrites sur la dalle du Trocadéro, là, hein, voilà. Michel insistait beaucoup sur le devoir sacré qui est associé à la lutte contre la misère. Enfin, disons, il me semble que l'emploi de ces termes-là indique que il y a sans doute un rendez-vous avec Dieu dans cette question-là. Voilà, dans ces combats-là. Hein. Voilà. Sinon, ouais, voilà.
Juste, madame au premier rang, Claudine, on bavardait ensemble, et vous avez dit que vous avez subi aussi d'être malmenée, parce que vous dites que vous n'avez pas connu la misère, pas connu, et que vous la découvrez. Mais après, vous m'avez dit, mais j'ai été malmenée dans mon travail. Donc voilà, en entendant tout ça, vous découvrez que la misère, c'est pas seulement manque d'argent, c'est bien, bien plus profond que ça. Pour autant, vous avez vécu des choses comme ça, mais là aussi, il y a besoin de, même quand on l'a vécu, de cheminer pour mesurer tout ce que ça veut dire. C'est ça, vous m'avez dit.
Voilà, nous sommes au terme de notre soirée. Nous pouvons beaucoup remercier nos intervenants, tous les quatre qui étaient là, et puis Jean qui est là-bas. Donc quelques petites annonces pour finir la soirée. Pour tous ceux qui veulent continuer à penser, à réfléchir, tout ça, il y a encore plein de livres à vendre au fond. Les libraires sont là et seront très heureux de pouvoir vous vendre des livres pour continuer à penser et à réfléchir. En sortant du côté gauche, vous trouverez deux documents. D'une part, une feuille où vous pouvez inscrire vos coordonnées si vous vouliez recevoir des informations sur ATD Quart-Monde pour mieux connaître le mouvement. Et puis, vous auriez aussi le livret de la chaire Rodin du Centre Sèvres avec les propositions qui sont offertes par le Centre Sèvres en présentiel ou en distanciel. Et pour ceux qui sont sur Zoom, si vous allez sur le site du Centre Sèvres, vous sélectionnez la chaire Jean Rodin et vous pourrez accéder au programme et télécharger ce petit document que j'ai avec moi.
Comme vous avez pu le voir en vous inscrivant à cette soirée, nous avons choisi qu'il n'y ait pas de participation aux frais fixés par le Centre Sèvres, mais nous avons mis des urnes à la sortie. Et voilà, si vous pouviez nous aider à contribuer aux frais générés par la sortie, ce serait magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui auraient beaucoup aimé être là, ou si vous voulez réécouter les conférences, d'ici 2-3 jours, vous pourrez trouver ça sur le site du Centre Sèvres en replay, les audios de la soirée. Voilà, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre présence.
Bonsoir, sœur Laure.